Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Regard sur la situation en Syrie, alors que la Turquie poursuit son assaut militaire sur le Rojava, région du nord-est administrée par les Kurdes, après le feu vert implicite donné par le président américain à son homologue turc. Cette entente entre Washington et Ankara est lourde de conséquences pour les Kurdes syriens qui font face depuis près de deux mois maintenant à une extrême violence, nettoyage ethnique, crimes de guerre, affrontements, chronique d'une tragédie annoncée pour une population qui a déjà très lourdement payé son engagement dans la lutte contre Daesh avec plus de 11 000 morts. Regard sur la recomposition du conflit syrien vieux de 8 ans entre la tentative de reconquête de la Syrie par Damas avec le soutien actif de la Russie et l'invasion turque. Les États-Unis ont-ils fait une grave erreur stratégique? Comment les cartes promettent-elles d'être redistribuées? Nos invités, Fabrice Balanche, maître de conférence à l'Université Lyon 2, chercheur associé au Washington Institute et auteur de plusieurs ouvrages dont Le communautarisme dans la guerre civile syrienne, paru en anglais aux éditions du Washington Institute. Bonjour.
Bonjour.
Et Olivier Puyot, journaliste fondateur de Médias et Démocratie, auteur de Kurdes, les damnés de la guerre, à paraître en mars 2020 aux éditions Les Petits Matins. Bonjour.
Bonjour.
Fabrice Balanche, vous étiez dans le nord-est de la Syrie au mois d'octobre, au moment du début de l'offensive turque. Qu'est-ce que l'on peut dire de ce qui se passe sur le terrain? Le retrait américain qui a permis donc l'intervention turque n'était pas réellement une surprise. Les Kurdes y étaient préparés et s'y étaient organisés. Comment expliquer que les Américains aient échoué à temporiser les Turcs et aient encouragé les Kurdes à retirer leur armement défensif et les fortifications de la frontière avec la Turquie?
Les Kurdes n'étaient pas vraiment préparés à ce retrait américain. Ils ont cru jusqu'au bout que les États-Unis allaient rester et les protéger. Lorsqu'en juin 2019, il y a eu des accords avec la Turquie, des patrouilles mixtes sur la frontière, les Kurdes ont joué le jeu. Ils ont retiré leur armement lourd de la frontière. Ils ont bouché les tunnels qu'ils avaient creusés pour se défendre. Les États-Unis leur ont dit que s'ils faisaient ça, eh bien les Turcs n'attaqueraient pas et ils s'en portaient garants. Et donc, lorsque le 7 octobre 2019, les blindés américains ont quitté la frontière, la zone entre Tel Abiyad et la Seraïn, laissant donc les Turcs attaquer, ça a été quand même une sacrée déconvenue pour Mazlum Kobané, pour les YPG, pour les Kurdes, qui ne s'attendaient pas à ça. Et qui ont vu tout de suite les Turcs attaquer, et surtout les supplétifs arabes des Turcs attaquer, lancer les embuscades, couper les routes, assassiner des civils, comme Avrin Khalaf, la politicienne kurde. Et ça a été l'affolement général. J'ai vu le système défensif kurde s'effondrer très rapidement, et la population kurde vraiment se tenir à l'écart de cette guerre, de cette bataille perdue d'avance. Quant aux Arabes qui se trouvaient dans les forces démocratiques syriennes, ils n'ont surtout pas aidé les Kurdes. Il y avait des Arabes dans les YPG, ils ont carrément déserté. Ce n'était pas leur guerre, ils n'avaient pas envie d'aller se battre. Et on ne peut pas dire que les troupes turques aient été accueillies avec beaucoup d'hostilité dans les villages arabes, qui ne rêvaient que de se débarrasser justement de la tutelle des Kurdes, parce que l'unité entre Kurdes et Arabes dans ce nord-est de la Syrie, C'était une chimère. Les Arabes n'ont jamais supporté l'inversion de pouvoir au profit des Kurdes. Et j'ai fait plusieurs séjours dans cette région et tous les Arabes, la plupart des Arabes que j'avais rencontrés m'avaient dit « Nous, on veut le retour de l'État syrien. On ne veut pas vivre dans une province séparatiste dominée par les Kurdes. Il n'en est pas question. » Alors ceux qui n'avaient pas fait leur service militaire, ceux qui avaient vraiment soutenu l'opposition syrienne, ils étaient effectivement d'un autre avis. Mais ceux-là, ils se disaient qu'ils pourraient toujours aller se réfugier dans les zones occupées par la Turquie si l'armée syrienne revenait. Donc voilà un petit peu dans quel état d'esprit on était en ce mois d'octobre dans le nord-est de la Syrie. Une grande insécurité parce qu'évidemment les cellules dormantes de Daesh ont relevé la tête et ont commencé à commettre des attentats un petit peu partout. À Qamishli, le 11 octobre, une voiture piégée qui a sauté, ça a fait une dizaine de morts, des dizaines de blessés, parce qu'il n'y avait plus de sécurité. Les ASAESH, les gendarmes kurdes, les YPG étaient au front. Il n'y avait plus personne au barrage. Avant, il y avait des barrages tous les 20 km, il y avait des barrages à l'entrée des villes. Tout le monde avait déserté les barrages. Et donc, les voitures piégées, les motocyclettes piégées ont pu circuler comme si de rien n'était. Et là, c'était vraiment une situation assez chaotique. On ne savait pas où on allait. Et vu le refus de la population kurde de se battre, vu que les États-Unis n'ont pas tenu leurs engagements vis-à-vis des Kurdes, il n'y a pas eu de zone d'exclusion aérienne, on n'a rien fait pour empêcher la Turquie d'attaquer, y compris la France, hein, parce que lorsque le président Macron a dit « il faut arrêter la Turquie », à ce moment-là, pourquoi les troupes françaises qui étaient à la cimenterie Lafarge, à 50 km de Tel Abiyad, elles n'ont pas été remplacées, les troupes américaines? Il fallait une heure pour qu'elles montent à la frontière et qu'elles bloquent l'offensive turque. Il y avait aussi beaucoup d'hypocrisie de la part de l'Europe. Donc ça a poussé Mazlum Kobané à négocier très vite avec l'armée syrienne, avec la médiation russe et surtout la médiation iranienne, dont on parle peu mais qui a été essentielle dans cette affaire. Les Russes et le régime de Damas voulaient punir les Kurdes et ce sont plutôt les Iraniens qui ont mis un peu d'huile dans les rouages pour convaincre tout le monde de se retrouver autour de la table. Et puis, voilà, ça a été une abdication des Kurdes qui ont laissé l'armée syrienne revenir dans le nord-est syrien.
Alors, vous avez permis d'envisager des focus que nous allons faire, bien sûr, dans l'émission sur le rôle de l'Iran, ce qu'envisage la Turquie aujourd'hui. Olivier Piau, d'après l'ONU, quelques 180 000 personnes ont été déplacées, dont 80 000 enfants. Amnesty International parle de crimes de guerre perpétrés par les milices alliées à Ankara. Qu'est-ce que l'on sait de ces milices ?
On sait pas mal de choses sur ces milices parce que c'est pas la première fois qu'elles interviennent comme supplétifs de l'armée d'Ankara. C'était déjà en partie vrai en août 2016 quand il y a eu la première opération turque Ramon d'Olivier. Ça a été vrai encore plus au moment de l'attaque d'Afrin, du canton d'Afrin, donc en début 2018. On sait que ce sont des groupes, et il y en a de très nombreux, qui sont sur une échelle entre des salafistes modérés aux extrémistes venus y compris de l'État islamique, c'est-à-dire des islamistes radicalisés, auxquels Ankara et le président Erdogan, le président turc, fait la cour depuis plusieurs années parce qu'il a compris qu'il avait besoin de ces forces d'appoint pro-turques, sunnites. Et il les a reçus à Ankara pour beaucoup d'entre eux, à commencer par ceux qui sont responsables le 13 octobre dernier de l'assassinat de cette fameuse militante kurde, Avrin Khalaf. Ils avaient été reçus quelques mois auparavant par Ankara. Donc on sait que le sale boulot, si j'ose dire, sur le terrain, le président Erdogan a très clairement confié ce travail assez supplétif et ils sont mis en cause évidemment aujourd'hui par la plupart des organisations de défense des droits de l'homme sur place, à la fois syriens mais aussi Amnesty International, et les rapports qu'on a, pour prendre le cas de cette jeune militante de 35 ans, c'est quand même un crâne défoncé, des brûlures sur la peau, etc. Donc voilà, c'est la force d'appoint, les Américains le savent, les Européens le savent. Et je pense que c'est toute l'ambiguïté du rapport entre Erdogan et les courants islamistes radicalisés depuis le début de la guerre en Syrie. Mmh. Et aujourd'hui, il en fait sa force d'appoint sur le terrain pour terroriser les populations arabes qui étaient sur un curseur plus ou moins solidaire de cette mise en scène démocratique kurde au Rojava, et puis jusqu'à ceux qui sont hostiles. Mais bon, donc ce sont sur le terrain des mercenaires qui sèment la terreur.
Alors, comment les choses ont-elles évolué, Fabrice Ballanche, depuis le début de l'opération? Ça va bientôt faire 2 mois. Alors, peut-être d'abord, comment les choses ont-elles évolué? Après ça, on va parler des États-Unis et de la France. Fabrice Ballanche.
Donc, le 9 octobre, la Turquie a lancé son offensive terrestre avec des bombardements sur tout le long de la frontière, de Kobané jusqu'au Tigre. Mais l'offensive terrestre, elle n'a eu lieu qu'entre Tel Abiyad et Ras El Ain, sur cette fenêtre de 120 km au nord de Raqqa. Très rapidement, la ville de Tel Abiyad est tombée au bout d'une semaine. Tel Abiyad, c'est une ville arabe, il y avait une minorité kurde seulement, donc c'était assez facile pour ces supplétifs pro-turcs de prendre la ville, parce qu'ils étaient justement originaires de cette ville, notamment de la fameuse tribu Jais, tribu qui a collaboré avec l'État islamique entre 2013 et 2015, qui a d'ailleurs à l'époque brûlé les villages kurdes de la région, participé à la bataille de Kobané avec Daesh. Et donc, lorsque les YPG sont revenus dans la région en 2015, évidemment, ils ont pris la porte d'escampette vers la Turquie, où ils ont été accueillis par l'armée turque, entraînés par l'armée turque, payés par l'armée turque depuis 4 ans, préparés à reprendre le contrôle de la zone, parce qu'ils connaissent le terrain, parce qu'ils ont des liens avec la population locale. Donc ça a été très facile de reprendre Tel Abiyad dans une petite semaine. Ras El Ain, l'autre ville, ça a pris 2 semaines, mais là aussi, la population kurde était minoritaire, donc ça a été assez facile pour eux de s'en emparer, avec l'appui évidemment de l'artillerie turque, de l'aviation turque, parce qu'il n'y a rien eu du côté de la coalition internationale pour empêcher évidemment Ankara d'utiliser les armes lourdes et l'aviation. Ensuite, nous avons eu donc les accords du 13 octobre à l'aéroport de Kamishli, entre les Kurdes et l'armée syrienne. L'armée syrienne a pu se redéployer sur la frontière, ce qui a évité le carnage, ce qui a évité que les Turcs ne progressent davantage. Ça a permis de sauver Kobané, Kamishli et le reste du Kurdistan syrien. Le tout entériné, évidemment, par les accords de Sotchi, le 22 octobre, entre Poutine et Erdogan, où voilà, Erdogan se contente de cette fenêtre de 120 km sur 30 km de profondeur. Il reste des combats à Tel Tamer, à Ain Aïssa, mais c'est des combats qui sont marginaux, juste pour fixer la ligne de front. Là, désormais, il n'y aura pas d'affrontement entre l'armée turque et l'armée syrienne, il n'y aura pas d'autres incursions turques, à moins que le YPG refuse d'évacuer la zone des 30 km tout le long de la frontière, parce que, en fait, Poutine se sert de la menace turque contre les Kurdes pour leur dire « bon, maintenant, vous posez les armes, vous évacuez, vous vous intégrez dans l'armée syrienne, vous faites en sorte que les États-Unis quittent définitivement la région, vous arrêtez de les soutenir, vous arrêtez de protéger leurs bases. S'ils sont victimes d'un attentat perpétré par Daesh ou par d'autres, ça les fera partir davantage. » Voilà un petit peu le deal qui a été conclu entre Poutine et Erdogan. Alors l'administration autonome kurde du Rojava continue d'entretenir une fiction de gouvernance. Il est vrai que sur le terrain, à part le déploiement de l'armée syrienne sur les frontières, rien n'a changé. C'est toujours l'administration autonome qui est en charge de l'éducation, de la santé, etc. C'est toujours les troupes kurdes, forces démocratiques syriennes, qui assurent la sécurité dans le nord-est syrien. Parce que l'armée syrienne a été surprise, elle aussi, par cette attaque turque. L'armée syrienne et les Russes ne pensaient pas que les Américains allaient sortir de la frontière. C'était inconcevable pour eux. Enfin, logiquement, c'était inconcevable. Donc, ils n'avaient pas les forces immédiatement pour occuper ce nord-est. Et la priorité pour eux, c'est de reprendre la province d'Idleb, de toute façon. Donc, on laisse l'administration autonome en charge de cette région. On n'a pas envie que le chaos s'installe. On n'a pas envie que Daesh reprenne le contrôle de la région. Et en plus de devoir affronter une guérilla kurde, si par hasard on voulait s'imposer brutalement dans la région. Mais à terme, 3 mois, 6 mois, de toute façon, l'armée syrienne aura repris le contrôle de toute la région et ce sera l'administration syrienne qui sera en charge de cette zone. C'en est bien fini de l'autonomie kurde.
Olivier Piau.
Oui, c'est vrai, je partage l'avis de Fabrice Balanche, mais je crois que les négociations entre grosso modo 4 acteurs, que sont la Russie, les Kurdes, Damas et Téhéran, en fait, sont engagés depuis un bon moment, comme les négociations d'ailleurs entre Erdogan et le président Trump, et que ce scénario de retrait américain était anticipé par ces 4 acteurs depuis un moment, même s'ils ont pu être surpris. Mmh. Parce que d'abord, les États-Unis l'avaient annoncé, les discussions avec Erdogan, ça fait plusieurs mois qu'on parlait d'une zone de sécurité, de cette stratégie des Turcs de faire revenir les réfugiés arabes syriens. Enfin, personne n'a été surpris sur le fond, même si le timing, a sans doute surpris, y compris peut-être certains membres du Pentagone ou de l'administration américaine, puisque M. Trump éructe de temps en temps. Et donc
une certaine précipitation.
Voilà, c'est lui-même ne savait pas. Mais sur le fond, il s'était préparé à ça. Ça veut dire que la pression, finalement, sur les Kurdes, tout le monde la souhaitait. Les Américains la souhaitaient pour pouvoir dire à M. Erdogan « Faites ce que vous souhaitez parce qu'on veut que vous restiez dans l'OTAN, on vous ménage ». Les Russes la souhaitaient parce que leur objectif n'est pas d'être pour ou contre les Kurdes, c'est le maintien du régime de Damas et de M. Bachar al-Assad et la reconstruction de la Syrie. Donc tous les acteurs avaient finalement tous envie que les Kurdes baissent pavillon et que cette menace turque arrive à point nommé pour leur faire effectivement baisser pavillon, c'est-à-dire accepter que notamment Damas reprenne la main militairement. Et ce qui est en train de se jouer maintenant, c'est comment est-ce que les Russes et Damas vont obtenir des Kurdes un nouveau scénario de reconstruction de la Syrie en abandonnant. Alors moi, je dirais pas tout, je dirais une bonne partie de ce qu'ils ont acquis au nord-est syrien, c'est-à-dire de cette autonomie. Vous avez vu les dernières déclarations de Bachar al-Assad, qui a quand même défendu les Kurdes. Alors pas tous, pas les terroristes, etc. Mais en disant que ce sont des patriotes et qu'ils ont toute leur place à prendre dans la Syrie de demain. On a vu aussi le vice-ministre de la Défense et des Affaires étrangères russes, Mikhail Bogdanov, appeler les Kurdes à rentrer dans l'armée syrienne régulière, à construire. Donc ce qui est en train de se jouer, c'est cette administration kurde au Rojava qui reste. Quel type de négociation et quelle place on va faire demain aux Kurdes? Est-ce que les Kurdes peuvent revenir dans la Syrie d'avant 2011, tels qu'ils étaient avant 2011? Non, je crois que c'est acquis pour tout le monde. Est-ce que pour autant on va leur céder des formes d'autonomie au nord? Sans doute non plus, mais entre les deux, il y a des concessions auxquelles je pense que Damas est prêt, notamment pour contrer, parce qu'un front kurdo-syrien contre la Turquie, c'est quand même ce qui intéresse tout le monde, et les Kurdes et Damas. Et je pense que là-dessus, Poutine va jouer aussi son rôle de négociation. Qu'est-ce qu'obtiendront les Kurdes? Sans doute pas cette vaste zone d'autonomie, de fédération démocratique du nord de Syrie telle qu'elle avait été proclamée en 2016, mais ils peuvent encore jouer des cartes dans le cadre de cette future Syrie, peut-être qu'on peut imaginer sur le cas de ces centaines de milliers d'apatrides. Rappelons-nous quand même que la politique arabe des années 60, ça veut dire qu'en Syrie, en 2011, au moment de la guerre civile, il y a à peu près, et moi je les avais rencontrés en reportage là-bas, entre 400 et 600 000 Kurdes syriens apatrides, qui ont leur carnet du service militaire syrien et qui n'ont pas de passeport et qui n'ont pas d'identité syrienne. Donc ça, on sait que Bachar al-Assad avait cédé là-dessus, dès le mois d'août 2011. Il faut qu'il le redise, il faut que ce soit clair. Quelle va être la place des cadres militaires syriens dans la future armée syrienne? Pourquoi pas rejoindre cette armée, mais dans quelles conditions? Quels seront les statuts de ces trois cantons, Afrin, Kobané et Djezire? Alors, est-ce qu'on, ça veut dire qu'on peut aller vers une Syrie fédérale demain? Je pense pas. Mais il y a d'autres formes d'autonomie. Regardez la Catalogne, regardez tous les exemples d'autonomie. On a sur le curseur plusieurs variantes et je pense que les Russes, comme Bachar al-Assad, sont en train de voir ce qui peut être négocié avec les Kurdes syriens, en sachant que là, il y aura un nouveau clivage, c'est que ces Kurdes syriens sont enchâssés par les fameux cadros, hein, ces cadres du PKK qui les aident depuis le début.
Les Kurdes de Turquie.
Et là, il peut y avoir des désaccords. Donc, je crois que c'est un peu ce qui nous attend dans les semaines qui viennent.
Un commentaire, Fabrice Ballange, sur ce qui vient d'être dit.
Moi, je suis pas aussi optimiste. Je pense que, d'abord, la Fédération du Nord démocratique du Nord Syrie, c'était un tiers du territoire syrien. Ça allait jusqu'à Raqqa, Deir ez-Zor, etc. Et il y avait à peu près 3 millions d'habitants dans cette zone. Les Kurdes représentaient au grand maximum 40% de cette population. Donc déjà, Assad va jouer sur le clivage entre Kurdes et Arabes. Mmh. Et après, il reste des territoires kurdes à 80%. C'est Kobané, c'est le nord de la Djezire, Kamishli, etc. Mais même dans ces zones-là, on a pas mal de mixité arabe-kurde. Et il faut pas oublier que Bachar el-Assad, depuis longtemps, joue sur les clivages communautaires. Et donc, il va d'abord commencer par séparer les Kurdes des Arabes. Et il faut pas oublier qu'il a promis aux Arabes que désormais, il y aurait un rétablissement de leurs prérogatives. Et c'est comme ça qu'il a pu revenir à Manbij sans tirer un coup de fusil, parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'il négociait avec les tribus arabes de Manbij. Et Manbij, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça fait jurisprudence, ça montre que le régime est capable de revenir dans un territoire, de redonner le pouvoir aux élites tribales traditionnelles, et c'est ce qu'il va faire dans le nord-est syrien. Alors, le danger pour les Kurdes, c'est que ça se passe comme en 2004, lorsqu'ils s'étaient soulevés, que les tribus arabes ne pillent les quartiers kurdes, ne se réimposent par la force. Je pense que dans son discours du 4 novembre, justement, Assad a essayé de rassurer les Kurdes en leur disant « ça va pas arriver, ne vous inquiétez pas, on sait aussi que les Arabes ont collaboré avec l'ennemi, donc on fera bien la distinction entre les gens. » Il essaie de rassurer la population kurde. Comme vous le dites, il voudrait que les Kurdes s'intègrent dans l'armée syrienne et que les quadros retournent à Kandil, parce qu'il n'est pas question de les garder sur le territoire. Mais après, voilà, ça c'est la stratégie de Damas, mais après il faut voir les dynamiques locales.
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission précisément sur les dynamiques locales. On vous retrouve, Fabrice Ballange et Olivier Piau, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la situation en Syrie alors que la Turquie poursuit son assaut militaire sur le Rojava, région du Nord-Est administrée par les Kurdes. Nous retrouvons nos invités. Fabrice Balanche, maître de conférence à l'Université Lyon 2, chercheur associé au Washington Institute, auteur de plusieurs ouvrages dont Le communautarisme dans la guerre civile syrienne, paru en anglais aux éditions du Washington Institute. Et Olivier Piau, journaliste, fondateur de Médias et démocratie, auteur de Kurdes, les damnés de la guerre, à paraître en mars 2020 aux éditions Les Petits Matins. Nous avons terminé la première partie de l'émission, Fabrice Balanche, avec vous sur l'absence d'unité dans le nord-est syrien entre les Kurdes et les Arabes. Qu'est-ce que l'on peut dire des dynamiques locales? Quel scénario voyez-vous pour l'avenir de cette région?
La grande question est de savoir si l'État syrien, qui va reprendre le contrôle de la région, va être assez fort pour empêcher les vengeances qui ont été mises sous le boisseau ces dernières années. Il y a eu énormément de morts du fait de Daesh, du fait de la lutte entre les forces démocratiques syriennes et les différents groupes rebelles. Il y a aussi aujourd'hui des morts avec les supplétifs arabes de l'armée turque. Tout ça, ça crée du ressentiment, ça crée de la frustration. On est dans une zone tribale, dans toute cette région, où la loi du talion s'applique. Mmh. Et ça, c'est un énorme problème. Les Kurdes avaient réussi à imposer une sécurité, un gel de ses vengeances ces dernières années. Et là, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut se passer. Parce que comme Damas n'est pas assez puissant pour pouvoir justement réinstaurer un état de droit, enfin un état de droit, en tout cas un état policier capable de bloquer tout ça, ça peut partir dans tous les sens. Les chefs de tribus arabes, notamment, vont vouloir se venger des Kurdes qui ont pris le pouvoir, qui les ont marginalisés. Il y a eu des comportements aussi du côté du PUID d'arrogance vis-à-vis des populations arabes qui n'ont pas été très très bien acceptés. Donc on peut avoir beaucoup de soucis de ce côté-là, et avec évidemment Damas qui peut essayer de jouer les tribus arabes contre les Kurdes si les YPG ne posent pas les armes, font de la résistance, empêchent l'armée syrienne de reprendre le contrôle de la région.
Alors j'aimerais qu'on aborde les questions de façon un peu géopolitique, peut-être à ce stade de l'émission. Qu'est-ce que l'on peut dire de l'attitude des États-Unis? Est-ce qu'on peut parler d'erreurs stratégiques graves de la part de Washington? Est-ce que les Américains peuvent encore inverser la tendance? Ils sont toujours là pour protéger notamment les champs pétrolifères. La Turquie, quel est le projet d'Ankara? Quel rêve Erdogan poursuit-il? Quel projet politique? Est-ce qu'on peut imaginer un jour un retrait turc, et dans quelles conditions? Alors, ça fait beaucoup de questions. Olivier Piau.
Oui, ce qui est assez complexe dans cette zone, c'est que les hégémonies d'hier ont disparu, d'une certaine façon, les grandes hégémonies, c'est-à-dire ces acteurs qui, à eux seuls, pesaient suffisamment lourd pour infléchir l'orientation. Je pense évidemment aux États-Unis, à l'Europe aussi, d'une certaine manière. Je rappelle qu'en 92, dans un scénario comparable, au nord de l'Irak, c'est quand même l'intervention de l'ONU qui a permis de protéger la zone kurde du nord de ce pays après la première guerre du Golfe, et avec ce corridor qui a pu donner naissance à l'autonomie. Bon, aujourd'hui, visiblement, les alliés ont, je pense, plus les moyens, ni même l'envie de jouer ce rôle par rapport aux Kurdes du Rojava. Donc cette zone est livrée à un faisceau de jeux à la fois d'alliance avec des acteurs qui sont alliés et en même temps qui ont des intérêts divergents. C'est ça qui est compliqué. Clairement, Erdogan est allié à Poutine, mais il cherche aussi à sauvegarder une forme d'alliance avec Trump, et il joue sur les deux tableaux. Damas est clairement arrimé à Téhéran et Moscou, et aucun de ces acteurs n'a les moyens, à lui seul, sauf peut-être la Russie, d'indiquer aux autres et d'imposer aux autres. Et encore, je suis pas sûr que M. Poutine ait vraiment les moyens d'arrêter complètement M. Erdogan sur toutes ses velléités. Donc chacun se ménage. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que on a basculé en août 2013, lorsque M. Obama a refusé de faire respecter la ligne rouge à M. Al-Assad, et là, avec M. Trump, par le retrait même partiel des troupes américaines, on a basculé dans un rapport de force où cette région va se reconstruire sous l'égide maintenant de la Russie, de Téhéran, de Damas et marginalement des États-Unis, puisqu'il reste Je ne crois pas que ce soit franchement pour les zones pétrolifères. Je crois que c'est un discours de Trump qui prend l'ancienne symbolique. Aujourd'hui, les États-Unis ont une totale indépendance énergétique. En réalité, je pense qu'il a autour de lui des gens qui lui ont dit « on ne peut pas quitter la Syrie comme ça ». Donc, ok, on en enlève la moitié, mais on reste sur place. Il n'est pas question que les États-Unis apparaissent comme ceux qui ont perdu ce jeu d'influence dans cette zone. Donc, il faut y rester, tenter de peser encore, même si on sait que ce sera marginal dans cette région des Rezor, etc. Ce qui me paraît important, c'est que, comme toujours aussi, il se passe des choses autour, et des choses nouvelles, et des choses qui vont apporter leur propre paramètre dans ces équations complexes qui se dénouent chaque jour, finalement. Il y a ce qui se passe au Liban, vous avez vu ce qui se passe en Irak. Bon, l'Irak, c'est quand même aussi le Kurdistan irakien au nord, par rapport au mouvement, la gronde sociale autour de Bagdad et de la partie arabe, sunnite et chiite de ce pays. Les Kurdes sont aujourd'hui délibérément neutres. On les voit pas encore intervenir, mais ça pourra peut-être pas durer, y compris dans la jeunesse kurde. Vous voyez les mouvements qui se développent en Iran, où on a autant de Kurdes iraniens, si ce n'est un peu plus, c'est-à-dire autour de 7 millions de Kurdes qui sont les grands oubliés de cet échiquier, qui vont être aussi embarqués dans cette grande sociale en Iran. Donc tout ça, je crois que on peut voir des lignes de force se dégager, mais ça laisse encore beaucoup d'inconnus et donc beaucoup de jeux de négociation. Mais il y a quand même une chose nouvelle maintenant, c'est que clairement l'Europe et les États-Unis sont sortis de la capacité d'agir sur cette région.
Alors, elle avait l'Europe, et vous l'évoquiez dans la première partie de l'émission, Fabrice Balanche, en parlant de la France, qui finalement, au moment du départ américain du nord-est de la Syrie, et qui avait des forces spéciales présentes sur place, n'a rien fait. On parlera de l'Iran, les événements au Liban, effectivement, en Irak, en Iran aujourd'hui, est-ce qu'on peut envisager un affaiblissement de l'Iran dans sa capacité d'influence extérieure, ce qui évidemment réjouirait, je le suppose, Moscou. Et on parlera d'Israël aussi, de son rôle de soutien aux Kurdes. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, Fabrice Balanche?
Tout ce qui se produit dans la région, il faut bien le voir, qu'il faut le relier à la volonté américaine de contenir l'Iran et à cette volonté iranienne de construire un axe vers la Méditerranée, Irak, Syrie, Liban. Les États-Unis ont choisi de ne pas confronter l'Iran militairement avec Trump. On l'a vu avec le renvoi de Bolton, que Trump trouvait un petit peu trop extrémiste. Il n'avait pas envie d'avoir une guerre avec l'Iran l'année de la campagne électorale. Donc il a choisi de confronter l'Iran sur le terrain économique par des sanctions. Et on voit le résultat de ces sanctions. Avec les manifestations qui se développent en Iran, en Irak, mais aussi au Liban, parce que le système financier libanais est sous pression des sanctions américaines. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut replacer évidemment ce qui est arrivé aux Kurdes. Trump ne veut pas se fâcher avec la Turquie, il veut essayer de la garder dans le camp occidental, et donc il se dit qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de problèmes à cause des Kurdes entre la Turquie et les États-Unis, eh bien les problèmes vont se déplacer au sein du groupe d'Astana, c'est-à-dire entre la Turquie, l'Iran et la Russie. Il espère faire exploser ainsi le trio Russie, Turquie, Iran, qui aujourd'hui contrôle le devenir de la Syrie. Moi, à mon avis, ça ne marchera pas. Je compare souvent Erdogan à Mussolini. Mussolini, les démocraties lui ont donné tout ce qu'il voulait dans les années 20-30, le Fezzan, l'Éthiopie, puis ensuite il s'est allié avec Hitler. Eh bien, Erdogan, on lui donne tout ce qu'il veut et au final, il restera lié à la Russie, à mon avis. Je pense que c'est vraiment une erreur d'analyse de la part des États-Unis. Enfin, en tout cas, ça, c'est la stratégie à Washington. Du côté russe, effectivement, l'affaiblissement de l'Iran, ça les intéresse parce qu'ils peuvent davantage s'imposer en Syrie, mais aussi en Irak. Les Russes sont très présents dans le nord-Irak à travers Gazprom et les compagnies pétrolières. Mais il ne faut pas que l'Iran soit trop affaibli non plus, parce que pour s'imposer au Moyen-Orient, la Russie a besoin d'un partenariat avec l'Iran. Il ne faut pas oublier que la Russie, c'est un pays exportateur de pétrole. Lorsque le pétrole est à $20 le baril, c'est une catastrophe pour la Russie. La Russie a donc besoin de faire pression sur l'Arabie Saoudite, qui est le régulateur mondial des cours du pétrole, pour que les prix remontent. Et pour ça, elle a besoin du partenariat de l'Iran, qui a les intermédiaires pour menacer les installations pétrolières saoudiennes. La création de l'axe iranien vers la Méditerranée, il est séquent avec les intérêts russes. Et l'alliance entre la Russie et l'Iran dépasse la seule figure de Bachar el-Assad. C'est une alliance alliance beaucoup plus large à l'échelle du Moyen-Orient, qui peut être une alliance tactique, circonstancielle, etc., qui pourra changer dans quelques années peut-être, mais pour l'instant, voilà ce qui se produit. Et les États-Unis, donc, ne veulent pas perdre le dernier pion qu'ils ont, c'est-à-dire la Turquie, si tant est qu'ils ont encore de l'influence sur Erdogan, et donc ils essaient aujourd'hui de ménager Erdogan. Comme vous l'avez dit, Erdogan joue très bien là-dessus, il essaie de tirer du côté des Russes, de tirer du côté des Américains, tout ce qu'il peut.
Et pour en revenir à l'accord entre Moscou et Ankara, Olivier Piau, il va sans dire aussi que la Turquie intéresse la Russie tant qu'elle est au sein de l'OTAN. La cause est bien entendu à ce niveau-là. Alors, j'en reviens à mes questions. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup que j'avais jetées comme ça. Erreur stratégique grave de la part des États-Unis d'avoir quitté le nord-est de la Syrie. Et est-ce que les Turcs sont là pour toujours dans cette bande donc longue de 120 km ou 130 et profonde de 30 km ? Olivier Piau.
Oui, moi je dirais pas que c'est une erreur stratégique américaine. C'est un choix américain qui est assumé, même si le président Trump se dit que bon, son entourage ou Pentagone, etc., dans l'administration, il y a peut-être une autre manière de faire, mais globalement, c'est un choix américain parce que les Américains ont d'autres priorités aujourd'hui à l'échelle mondiale, la mer de Chine, etc., et ils ont fait d'autres choix. Mais en même temps, il y a leur image, donc il y a manière et manière de sortir de la Syrie. Non, moi, ce que je crois, c'est un peu la thèse que je défendais dans mon dernier livre, donc « Les Kurdes, clés de voûte du Moyen-Orient ». Et je crois que c'est encore plus vrai, puisque à l'époque, je l'envisageais dans une perspective de reconstruction. Mais le fait que les Kurdes soient la clé de voûte de cette région, ça joue aussi dans l'effondrement. C'est-à-dire qu'on voit bien que dès qu'on touche finalement aux Kurdes et à cette expérience du Rojava, on déstabilise. Mmh. Ce que je crois, c'est qu'à terme, si on regarde plus largement, est-ce qu'on peut reconstruire un Moyen-Orient stable, stabilisé, sans régler cette et ces questions kurdes? C'est ce qui reste en débat aujourd'hui. Ça le reste en Turquie, puisque c'est une guerre ouverte du régime d'Ankara, une occupation, comme l'a fait l'armée israélienne dans les territoires palestiniens, permanente de centaines de milliers de soldats en plein Kurdistan, donc qui entretient la résistance et la lutte armée des Kurdes en Turquie. Ça ne cessera pas. En Iran, on va voir comment les choses évoluent. En Irak, le Kurdistan est très fragilisé, c'est-à-dire qu'avec l'erreur de M. Barzani, enfin l'erreur, en tout cas l'échec de son référendum, puisque ça a été, oui, majoritairement, mais contré tout de suite par Bagdad avec réoccupation des territoires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu en Irak, c'est le statut même d'autonomie, l'existence même de cette autonomie kurde acquise depuis 25 ans.
Un retour en arrière possible.
Mais il n'empêche qu'on va être dans une région où, quels que soient les scénarios, les Kurdes représentent sur 4 États près de 40 millions de personnes. Est-ce qu'on peut envisager de reconstruire de façon un peu stable, quelle que soit sa conception des États-nations, quelle que soit les choix stratégiques, sans régler au moins une partie de ses aspirations identitaires et politiques d'une population aussi importante? C'est un caillou dans la chaussure. Tout le monde le sait. Alors chacun ramène ça. Erdogan ne veut pas en entendre parler parce que Bachar al-Assad ne veut pas en entendre parler parce que... Mais au niveau des Iraniens et des Russes, qui sont ceux qui peuvent avoir la vision la plus, je dirais, hégémonique à construire et de forme de stabilité dans leur giron, ils ne peuvent pas ne pas savoir, avoir compris qu'il va falloir trouver des issues à ces questions kurdes. Peut-être pas en Turquie, parce que c'est le verrou le plus difficile, mais en Iran, dans la future Syrie, au nord de l'Irak. Hier, la question qui était posée à l'automne 2017, c'est est-ce qu'on soutient l'indépendance d'un Kurdistan à l'occasion d'un référendum, mais on ouvre la voie à... Tout le monde s'était insurgé contre à l'époque. On est 2 ans plus tard, on est devant maintenant une perspective de reconstruction où il n'y a plus d'opposition Astana, Genève, puisque grosso modo c'est le protocole d'Astana qui va s'appliquer. Je pense que les Iraniens et les Russes vont prendre un temps de recul et vont se demander comment ils peuvent faire pression sur Bachar al-Assad, peut-être même sur Erdogan, pour dire, voilà, quelle solution vous avez pour ça? Parce que sinon, on se remet dans une clé de voûte qui va redéstabiliser la région à plus ou moins court terme.
Alors, pour aller plus loin, Fabrice Ballanche, quel rôle pour Israël?
Quel est l'intérêt d'Israël avec les Kurdes? Tout ce qui peut affaiblir, de toute façon, les États arabes et même la Turquie et l'Iran, c'est intéressant. Donc, si on peut pousser les Kurdes à demander de l'autonomie, une indépendance, ça ne peut qu'aller dans le sens des intérêts d'Israël. Donc les Israéliens soutiennent les Kurdes dans tous les pays, effectivement. Les Israéliens sont tétanisés à l'idée de voir les Iraniens créer cet axe vers la Méditerranée. Mmh. Et donc les manifestations qu'il y a en Iran, le problème kurde, si ça peut occuper les Iraniens à l'intérieur, bien ça les évitera d'avoir des velléités de conflits avec Israël. Aujourd'hui, le Hezbollah, on le voit au Liban, est quand même très malmené par les manifestants, qui accusent le Hezbollah d'être comme les autres partis politiques libanais, corrompus, incapables. Et là, on a eu des affrontements à Beyrouth entre partisans du Hezbollah et manifestants. Donc ça affaiblit le Hezbollah, ça affaiblit un proxy iranien, et ça, évidemment, ça va dans l'intérêt d'Israël. Alors attendons-nous, hein, c'est pas Israël qui a déclenché les émeutes au Liban, c'est la guerre, la corruption, un système économique qui est à bout de souffle. En Iran, c'est pareil, c'est cette mauvaise gouvernance qui est mise en place. Mais ce qui n'empêche pas ensuite pour des puissances comme les États-Unis ou Israël de jeter un petit peu d'huile sur le feu en agitant quelques proxys. Mmh. Au Liban, on sait très bien que les forces libanaises sont payées par les États-Unis pour bloquer les routes et encourager ainsi les manifestants contre le gouvernement libanais.
Alors, pour terminer, deux questions, et on revient à la Syrie. Les Turcs sont dans cette bande de façon définitive. Alors, c'est une victoire pour Bachar el-Assad.
Je pense que, en tout cas, il se sert de l'offensive turque pour faire baisser la garde aux Kurdes syriens. Pour lui, c'est bien. Maintenant, c'est le territoire syrien qui est occupé aujourd'hui par l'armée turque. Ce projet de faire revenir massivement, de réarabiser cette région, qui correspond pour Erdogan comme pour Bachar el-Assad, même si c'est deux objectifs différents, ça noie la cause kurde dans ces régions où ils étaient quand même, dans certains endroits minoritaires, mais globalement à 40, 50, voire 60, et parfois plus pour cent des populations. Donc une zone kurde qui va être noyée par cette arabisation, voulue par Erdogan parce que ça lui permet de faire revenir, parmi ces presque 4 millions de réfugiés arabes syriens, de les faire revenir en Syrie. Et Bachar el-Assad, comme son père, il en profite pour arabiser cette région. Tout ça, on est d'accord, il y a un enjeu commun. Mais on verra comment les choses sont négociées. Il y a un dernier élément que je voulais ajouter, c'est la fragilité aujourd'hui d'Erdogan en Turquie. Je dis bien la fragilité. C'est-à-dire qu'il est en train de traverser une crise économique qui me paraît pas seulement conjoncturel. Je pense qu'il y a des éléments de structure qui vont faire en sorte que ça va durer. Que son offensive militaire, c'est une façon de répondre politiquement à ses problèmes de politique intérieure pour faire front au maximum et obliger les partis d'opposition, y compris ces fameuses trois factions au sein de l'AKP, puisque maintenant l'AKP est éclatée. Et donc passer cette offensive, ce jeu en Turquie sur lequel il a rallié tout le monde, va se poser la question de son propre avenir et de l'avenir de la Turquie. Je redis juste pour les auditeurs, ces Kurdes turcs dont nous parlons, c'est un quart de la population, avec un parti, le HDP, qui a des députés, qui a des maires, qui sont emprisonnés pour beaucoup, qui avait commencé à faire des alliances, avec y compris des partis kémalistes hostiles à l'AKP et à son aventure militaire. Le maire d'Istanbul était quand même un opposant. Alors il a soutenu l'offensive militaire très bien, maintenant que l'offensive est passée. Donc vous voyez, il y a une fragilité de la Turquie aujourd'hui qui est anticipée par personne, qui pourra changer la donne dans la région.
Fabrice Balanche, très rapidement.
Oui, victoire d'Assad, oui, puisqu'il peut reprendre le contrôle de ce grand tiers du territoire qui lui échappait. La stratégie d'Erdogan de vouloir créer une ceinture arabe, ça va aussi dans son sens pour dissoudre évidemment le territoire kurde. Mais attention, la Turquie occupe cette bande de territoire entre Tel Abyad et Al-Salaïn. Elle occupe aussi Afrin, Al-Bab, Jarablos. Et l'occupation turque peut durer longtemps, on le voit à Chypre Nord. Et la grande crainte de Damas, c'est de voir les Turcs distribuer généreusement la nationalité turque à des populations locales et ensuite de pousser vers un référendum, d'autant plus qu'il y a beaucoup de minorités turkmènes, peut-être pas à Tel Abyad, mais en tout cas dans le nord-ouest de la Syrie, qui est occupée aujourd'hui par la Turquie.
Et Chypre Nord, ça dure depuis 1974. Voilà. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci Fabrice Balanche, je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Lyon 2, chercheur associé au Washington Institute et auteur de Le communautarisme dans la guerre civile syrienne, paru en anglais aux éditions du Washington Institute, et Olivier Piau, journaliste, fondateur de Médias et Démocratie, auteur de Kurdes, les damnés de la guerre, à paraître en mars 2020 aux éditions Les Petits Matins. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Louise Kaledek et Nathalie Laporte. Demain, l'émission sera consacrée aux États-Unis et à l'Amérique latine. À demain. L'atelier.